Voilà, donc on a ouvert le bal un petit peu avec un Jean la semaine dernière, et j'ai quand même envie, pendant ces quelques semaines qui sont devant nous, de revoir toute cette lettre. J'ai même fait des petits schémas de lecture que les uns les autres peuvent lire tout au long du mois de février. Il faut que je les amène la semaine prochaine, en fait, parce que là, c'est laissé à la maison. Alors, 1 Jean, la première lettre de l'apôtre Jean. Même auteur que pour l'évangile, hein, ça se voit d'ailleurs par le style. Il y avait deux choses que je voulais dire en introduction. Donc, la première chose, c'est que c'est une lettre circulaire. On ne sait pas à qui cette lettre était destinée. Bon. Mais les apôtres ont écrit des lettres qui ont circulé dans toutes les églises. Mais dans un sens, c'est une lettre circulaire avec une sorte de deuxième sens, parce que c'est une lettre qui n'est absolument pas écrite de façon linéaire. Quand Paul écrit, c'est très logique. C'est A, B, C, D, E, F, etc. Donc, Paul, élevé au pied de Gamaliel, le grand rabbin, la logique et tout, mais Jean, c'est pas ça. On a l'impression qu'il tourne en rond. Parce qu'en fait, il aborde un sujet, il va vers un autre sujet, etc. Et puis il revient vers le premier sujet. Et je crois que la meilleure façon de comprendre un Jean, et donc essayer de se rappeler ça tout au long de mes interventions, c'est comme un escalier en colimaçon. Parce qu'en fait, on a l'impression de tourner, mais en fait, on est en train de monter en même temps. Donc, on revient vers les sujets, mais chaque fois, c'est pour les, ouais, c'est-à-dire pour les approfondir. Mais enfin, c'est dit, il faut prendre la hauteur en approfondissant. Mais là, je mélange un petit peu les métaphores. Mais voilà, c'est comme un escalier en colimaçon, et de plus en plus, on monte et on voit toute la richesse des sujets qu'il aborde. Voilà. Donc, deux petits mots en introduction. Maintenant, c'est une lettre aussi qui est d'une très grande pertinence. C'était une lettre très pertinente déjà à l'époque de Jean. On affirmait à cette époque-là, on avait certaines hérétiques, si on veut, qui sont devenues après ce qu'on appelle les gnostiques, que la matière était mauvaise et seul le spirituel était bon. Ça semblait bien. Oh oui, la matière, mépris pour la matière, ascétisme, etc. Alors que seul ce qui est spirituel est bon. Mais il y a des problèmes, d'énormes problèmes avec cette idée. Il y en a deux dont il est question dans cette lettre. Le premier, c'est, bah, alors qui est Jésus? Parce que si la matière est mauvaise et Jésus a pris un corps comme le nôtre, Jésus était mauvais. Et c'est pour cela qu'ils ont parlé d'une doctrine qui s'appelle docétisme, docétisme selon la prononciation, où on disait Jésus paraissait humain, parce que c'était le mot en grec pour paraître, il paraissait humain, mais il n'était pas vraiment. Ou une autre façon de le dire, c'est que Jésus est né comme un être humain. Et le Christ est entré dans son corps au moment de son baptême et qui a quitté son corps avant la crucifixion. Donc Jésus et le Christ, ce n'est pas la même personne, en fait. Enfin, c'est la même personne, mais ce n'est pas synonyme. Et le deuxième problème avec cette affirmation, c'est que à partir du moment où le corps n'a pas de valeur, qu'est-ce qu'on en fait? Soit on dit, bon, il faut l'assujettir. Donc c'est l'ascétisme. Et Jésus n'était pas forcément un ascète lui-même. Il buvait, il mangeait, même avec les pécheurs, hein, on lui reprochait ça. Ou bien on disait, ah ben, puisque le corps est mauvais, le corps n'est pas vraiment important, on peut faire ce qu'on veut avec son corps, du moment qu'on ne pêche pas dans son esprit. Et ça donnait même une certaine immoralité. Parce qu'on pouvait, en coucher avec quelqu'un, ben, du moment qu'on garde l'esprit sain, c'était pas grave. Donc tout cela, on va voir tout au long de la lettre, même si on ne dit pas autant aujourd'hui, ben c'était un petit peu en arrière-plan, hein, de cette lettre. Et on affirme que Jésus est venu dans la chair. On l'affirme à plusieurs reprises. Donc, une lettre pertinente pour nous aussi. Pourquoi? Deux choses. D'abord parce que cette lettre met au centre la question du péché. Donc d'une part le pardon, d'autre part l'obéissance et les liens entre les deux. Plutôt que de dire aller dans, comment dire, des spéculations intellectuelles, Jean dit la relation de Dieu passe par une bonne compréhension de ce que c'est que le péché. Et il y a le pardon. Mais le pardon ne veut pas dire après que on peut faire tout ce qu'on veut parce que Dieu va pardonner. Bon, il développe toute cette idée-là. Et ça, c'est resté très actuel, même aujourd'hui. Et la deuxième chose qui est très pertinente pour notre époque, c'est que on peut quand même savoir. Jean ne verse pas dans la subjectivité. Pour dire, du moment que j'expérimente quelque chose, du moment que c'est bon pour moi, c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas combien de fois vous pensez que Jean a écrit Nous savons en cinq chapitres, mais je les ai comptés. 12 fois en cinq chapitres. Nous savons. Donc ça aussi, c'est important. Dans un monde où on dit on ne peut pas savoir, on ne peut pas vraiment connaître la différence, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bien, ce qui est mal, nous savons. Il revient plusieurs fois. Donc tout ça, c'est un petit peu l'introduction qui vaut pour toute la suite. Maintenant donc, on va revenir au début de cette lettre. Et 1 Jean 1, versets 1 à 4, je vais le lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée et nous l'avons vue, nous lui rendons témoignage, nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée, ce que nous avons vu et entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. On peut aussi traduire afin que votre joie soit parfaite. Alors, je vais essayer de faire trois choses là, ce matin. La première chose, on va examiner un petit peu ce mot vie. Parce que c'est le mot central de ce texte. Il dit que ce qui était dès le commencement, fin du verset 1, concernait la vie. Au début du verset 2, la vie a été manifestée. Et on voit bien au milieu du verset 2 que cette vie est la vie éternelle. Donc, qu'est-ce que la vie? C'est la première chose qu'on va voir. La deuxième chose, on va analyser un petit peu le texte pour voir quel est le développement de Jean dans ce texte. Et la troisième chose, on va se poser la question, alors, et nous, là-dedans? En quoi ça nous concerne? Mais d'abord, je voulais commencer avec la vie. Qu'est-ce que, terme qu'on utilisait beaucoup en philosophie, la vie bonne? Luc Ferry pose souvent cette question, mais il n'est pas le premier. Déjà Platon, du temps des Grecs. Il parlait de la vie bonne. Et tout au long des siècles, les philosophes se sont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire bien vivre? Qu'est-ce que cela veut dire? Et j'ai cherché sur Internet cette semaine tous les différents philosophes. Hein, je vous fais grâce, hein, je ne vais pas faire un cours de philosophie ce matin, mais tous les différents philosophes qui proposaient des façons de vivre une vie bonne. Je vais en parler d'un, parce que c'est dans la Bible, les Épicuriens. Paul en avait rencontré à Athènes. Les Épicuriens, quand on parle d'Épicuriens maintenant, on va dire, oh, c'est quelqu'un qui sait bien vivre, hein, manger, boire et tout ça. C'est pas tout à fait vrai. Parce que les Épicuriens disaient, ce que l'on veut, c'est la vie la plus heureuse possible. Et si, par exemple, on boit trop, le lendemain, on ne sera pas aussi heureux. Donc finalement, ce n'est pas aller jusqu'au bout de cela, c'est avoir globalement le plus de bonheur possible en étant en partie modéré pour que le bonheur dure. Ce n'est pas le jeudi soir des grandes écoles à Paris. Hein, donc, C'est pas ça, ou le binge drinking, comme on dit en anglais, hein. C'est pas ça, c'est pas ça le bonheur. Parce que le lendemain, ça déchante. Et je me suis dit, ben nous, au moins en tant que chrétiens, on est là, le dimanche matin, pour chercher, mais comment vivre? Quelle est la bonne vie? Comment nous émerveiller? Je me sentais comme un petit enfant, c'était pas cette semaine, mais la semaine avant qu'il y avait beaucoup de pluie, je suis rentré de la gare de Clichy, jusque chez moi, et j'ai pris un énorme plaisir à regarder tous les reflets dans les flaques d'eau. Et je me suis dit, bon, alors, à mon âge, mais c'était joli, c'est joli comme tout. Donc on peut nous émerveiller des choses comme ça, ça fait partie de la vie. Mais en même temps, les gens, qu'est-ce qu'ils font? On ne réfléchit plus, parce que c'est là l'idée en fait sur Internet quelque part, qu'on ne réfléchit plus, les contraintes horaires, les technologies, le travail, les ceci, les cela, on n'a pas de temps, on ne réfléchit pas. Quelques petites citations. S'il est un point sur lequel s'entendent tous les grands philosophes antiques, c'est bien l'idée que chaque homme doit ici et maintenant devenir le maître de sa vie et toute la querelle porter sur le moyen d'y parvenir. Parce qu'ils n'étaient pas tous d'accord hein, entre eux. C'est le moyen d'avoir la bonne vie. Deuxième citation. Il y a au moins un marché aujourd'hui qui ne connaît pas la crise. C'est celui des raisons de vivre qui s'achètent de plus en plus cher, tant elles semblent devenues moins évidentes. Donc, les gens ne savent plus où se donner de la tête, ils n'ont plus de repères. Longtemps, notre monde voulut croire que l'abondance matérielle était la condition nécessaire et suffisante du bonheur. C'est pas le cas. Autre citation, un peu ironique mais un peu drôle en même temps. La question de la bonne vie ressurgit pourtant aujourd'hui de façon insistante, parce que les hommes persistent à mourir. Donc, à partir du moment où on persiste à mourir, on se pose la question du sens de la vie. Je ne sais plus qui a écrit ça, mais je trouve une belle phrase quelque part. Les hommes persistent à mourir. Et ils ne sont toujours pas heureux, pourrait-on dire. Et ils disent les problèmes, soif de reconnaissance et d'identité, peur de la mort, les sauvages douleurs de l'amour, encore une belle phrase, et le désir inassouvi de suspendre le temps. Donc ça veut dire on ne veut pas mourir, on veut que ça s'arrête. Alors, autre citation, aujourd'hui, alors que le souci de la vie éternelle préoccupe assez peu les Occidentaux, l'existentialisme continue à empoisonner l'atmosphère. Ça veut dire quoi? C'est qu'on veut ressentir les choses, on veut expérimenter les choses, et c'est à peu près la seule chose qui reste. Hein. On veut les émotions fortes, quelque part. Peu importe si on fait un raid l'Antarctique, ou si on fait un saut à la corde, ou si on fait un week-end dans un monastère, on veut les émotions fortes, et c'est tout. Mais on ne sait pas trop ce qui est derrière. Donc, moi j'ai dit, nous vivons une époque étrange. Nous, au moins, en tant que chrétiens, on s'est levé ce dimanche matin, on est venu au culte. On veut chercher, mais comment vivre, en fait? Combien de personnes ce matin ont été un peu exhortées à l'émerveillement? Peut-être pas. Donc, t'es des fous. Encore. Encore. Et quand on dit, moi je suis chrétien, je cherche à vivre bien, on dit, oh là, attention, laïcité, prosélytisme, sourire narquois. Alors qu'en fait, on est en train de faire ce que tous les grands penseurs du monde ont toujours fait. Essayer de chercher à bien vivre notre vie. Et nous, on essaie de tenir compte de Dieu. Même les catholiques parlent maintenant de leur coming out, parce que c'est presque honteux de dire « je suis chrétien ». J'imaginais d'ailleurs un étudiant, parce que je les côtoie pas mal, un étudiant qui rentre à la maison et qui dit à son père, je suis devenu bouddhiste. Ah bon, il retourne à la maison, je suis devenu existentialiste. Ah bon, je suis devenu chrétien. Ah! C'est affreux. Mais donc nous cherchons la vie bonne. Comment bien vivre notre vie? Donc c'est pour cela que on va revenir sur notre texte. La première chose, j'ai juste analysé ce que dit le texte par rapport à cette vie bonne. La première chose, c'est que la vie s'est manifestée. Et on comprend bien qu'il s'agit de l'incarnation, parce que dans les versets 1 et 3, on peut aller un petit peu plus loin, il y a une révélation historique. Ce que nous pensons n'est pas simplement une construction pure de l'esprit. J'en dis ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nos mains ont touché. Donc, quand lui, il a accompagné Jésus, il est touché. Il a vu, il a entendu. C'était pas simplement une sorte de construction cartésienne très abstraite. Ils ont vu Jésus. Ils ont vécu avec lui. C'est comme Marie a dit à l'étude biblique mercredi soir. Mais qu'est-ce que ça a dû être de vivre pendant 3 ans avec quelqu'un qui n'avait jamais péché? Je ne sais pas s'il pensait à moi, mais les apôtres ont vécu avec Jésus pendant 3 ans, avec quelqu'un qui n'avait pas péché, dont les paroles étaient merveilleuses. Ils l'ont touché, ils l'ont vu. Donc cette révélation historique pour nous est importante. Et on connaît Jésus comment aujourd'hui? Bon, en lisant les récits des apôtres. La dernière fois que j'ai parlé ici, je vais parler comment, en tant que disciple, on veut vivre dans la parole et mettre en pratique les paroles de Jésus. Et j'ai lu une belle phrase de Calvin qui dit que quand Jésus vient à nous, il vient toujours revêtu des Écritures. J'ai trouvé que c'est une belle expression. On ne peut pas connaître Jésus autrement. Il vient revêtu des Écritures. Alors, cela, comme j'ai dit tout à l'heure, était choquant pour les gnostiques. Parce que Jésus a pris la chair humaine, un corps humain comme le nôtre. Alors que pour eux, la matière était mauvaise. Mais c'est tout aussi choquant pour nous. Pourquoi? Parce que une doctrine peut en cacher une autre. Si j'avais eu le temps, j'aurais mis une belle image avec un petit train disant une doctrine peut en cacher une autre. Et qu'est-ce que cette doctrine cache? Cette doctrine cache que la réponse à cette question, qu'est-ce qu'une vie bonne, ne va pas de soi. J'apporte souvent ce sujet par les étudiants quand on fait les dialogues Veritas. Souvent la question c'est quel est le sens de la vie? À quoi bon vivre? Pourquoi on est là? Et je commence toujours en disant, c'est drôle qu'on pose la question. Parce que le fait de poser la question montre que la réponse ne va pas de soi. Et on n'y pense pas. Pourquoi la réponse ne va pas de soi? Alors qu'on ne se pose pas les mêmes questions sur d'autres choses. C'est évident, tout le monde est d'accord qu'il faut manger, boire pour vivre, par exemple, des trucs comme ça. Mais le sens de la vie, mais pourquoi? Parce que derrière la question de la révélation de Jésus est la doctrine que l'être humain s'est détourné de Dieu. Et ce que nous vivons maintenant dans notre monde n'est pas une situation normale. On est dans une situation anormale, ce qui fait qu'on ne trouve pas des réponses à des questions essentielles. Comme j'ai lu tout à l'heure, c'est que les gens, la querelle des philosophes porte sur le moyen d'y parvenir. La question, ils sont tous d'accord, hein, comment vivre une bonne vie, une vie bonne? Mais les moyens d'y arriver, ben, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et cela est choquant. Parce qu'il n'y a que les chrétiens qui disent que le monde tel qu'on le voit n'est pas un monde normal. n'y a pas notre religion qui le dit. Mon ami Blaise Pascal y insiste hein, pour dire, je crois que j'ai mis une fois, nulle secte des philosophes ne l'a dit. Belle phrase encore. Nulle secte des philosophes ne l'a dit. Donc, pour le chrétien, on doit assimiler cette idée que ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas ce que Dieu voulait au départ. Le péché est entré dans le monde. Ça, c'est vraiment important. Donc, la doctrine de la chute, comme on dit, ou de la rupture avec Dieu, qui fait que Jésus a dû venir dans un corps humain pour apporter les réponses à ces êtres humains qui ne les connaissaient plus, parce qu'ils étaient en rébellion, en révolte. Alors, verset 3, on voit donc que cette vie, et même cette vie éternelle, c'est, fin du verset 3, la communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Le mot communion, on peut dire que c'est un peu abstrait, mais si je vous donne trois autres mots, trois autres façons de traduire le mot grec koinonia, c'est relation, c'est solidarité, c'est partenariat. Donc, on est de nouveau en relation avec Dieu. En quelque sorte, il est solidaire avec nous et nous avec lui. Et on est partenaire parce que il nous a mis sur sa terre pour la gérer en son nom. Donc, cette communion, cette réconciliation avec Dieu, et non seulement avec Dieu, mais le verset 3 aussi dit, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Donc c'est la réconciliation entre des personnes différentes qui vont vivre ensemble en tant que chrétiens, par exemple au sein d'une église. Cette communion est vraiment importante. Donc, je répète, d'abord la vie. Qu'est-ce que c'est cette vie? C'est la vie avec Dieu et avec les autres, donc le relationnel, et la réconciliation avec lui, et c'est la raison pour laquelle Jésus est venu. Et l'aboutissement, au verset 4, c'est la joie. Nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite, notre, certainement dans le sens de Jean qui a écrit et aux chrétiens à qui il écrit, donc notre joie. Et je pense que quelque part, le Seigneur nous a conduits parce que émerveillement et simplicité et joie sont très proches quelque part. Et dans ce monde, les gens deviennent très blasés par les choses. Donc on a besoin de rester simple, de nous réjouir du fait que nous sommes en relation avec Dieu et les uns avec les autres. Alors, comment vivre cela? Donc là, j'arrive au concret. Comment on va faire? J'ai même mis un autre verset en dessous, même si ce n'est pas ce texte, c'est ce verset dans Romains 12 qui dit: Ne vous laissez pas modeler par le monde actuel, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui plaît, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Cela veut dire. On ne peut pas vivre comme les gens autour de nous qui souvent ne réfléchissent même pas sur ces questions, j'ose le dire. Alors, quelles sont les trois choses sur lesquelles on va travailler pour ne pas se laisser modeler par le monde? Donc, je reviens à ce texte. La première chose, c'est la relation avec Dieu. Expression souvent employée d'ailleurs dans les milieux évangéliques, et certainement avec raison. J'ai entendu Henri Blocher dire au moins à trois reprises que la seule chose qui surprend le Français qui pense avoir déjà tout entendu, c'est lorsqu'on dit qu'on peut avoir une relation avec Dieu. Je suis d'accord avec lui. Ça, c'est, on connaît tout sauf cela. Donc, il nous faut cultiver cette relation. Comment le faire? Bon, c'est un peu ensemble. C'est un peu tout seul. C'est quand on est ensemble, on s'encourage, on s'exhorte. Mais aussi un peu tout seul, la prière, individuelle, mais aussi la lecture de la Bible. Hein. Je vous avais un peu exhorté il y a 15 jours sur cela, de lire sa parole et de nous laisser émerveiller par sa parole. Mais c'est aussi, je pense, c'est pratiquer consciemment la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de quelqu'un qui a écrit justement un livre qui s'appelle L'expérience de la présence de Dieu. C'était un. Il s'appelait Frère Laurent. Il était carmélite. Il était dans un monastère rue de Vaugirard. Il est né en Lorraine. C'est quelqu'un de bien. Près de Lunéville, en 1614. Et donc, il a voulu être moine, mais il n'a jamais voulu être, en quelque sorte, dans la méditation. Il a travaillé dans la cuisine du monastère, et après, en tant que savetier aussi, faire les chaussons. Mais il a dit, le but de sa vie, et j'aime beaucoup, en fait, le petit livre qu'il a écrit. Le but de sa vie, c'est à tout moment et en toutes circonstances, se souvenir de la présence de Dieu. À tout moment. C'est pas uniquement en culte, hein, c'est à tout moment. Se souvenir de la présence de Dieu comme étant le but de notre vie. Parce que puisqu'il nous a réconciliés avec lui-même, on peut se souvenir de lui pendant qu'on fait les courses. Pendant qu'on attend le bus, pendant qu'on est dans l'ascenseur, pendant qu'on fait tout. Et lui, ce qu'il voulait, c'est de plus en plus consciemment, tout au long de la journée, être conscient de la présence de Dieu avec lui. Et au moins le chrétien peut le faire. Il n'a pas peur de cela, puisqu'il est réconcilié, racheté par le sang de Jésus. Donc même si nous ne sommes pas parfaits, on peut s'en souvenir. Donc ça, c'est la première chose pour vivre la vie bonne. Se souvenir de la présence de Dieu avec nous à tout moment. La deuxième chose, ce sont les relations entre chrétiens dans la famille de Dieu. Certes, nous devons aimer tout le monde, mais au moins entre chrétiens, et je parle de cela d'abord, hein, bien sûr, il faut aimer tout le monde, hein, je ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais il y a une certaine petite préférence dans un premier temps que Paul dit dans les Galates, chapitre 6, verset 10. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Parce que là, on ne se fait pas avoir autant. On peut y aller avec plus de transparence. Il y a moins de risques dans ce sens. On partage un peu les mêmes valeurs. Et le fait de vivre ensemble est un véritable témoignage dans nos différences. On n'est pas pareil. Vous avez certainement remarqué. On n'est pas pareil. On n'a pas la même façon de voir les choses. On a des caractères différents, des façons de voir la vie un peu différentes, des valeurs secondaires différentes, parce que normalement, les mêmes valeurs chrétiennes, ensemble. Selon la génération, selon ses origines et tout ça, on est différents. Mais le Seigneur voudrait que notre vie ensemble le glorifie. Je pense que j'ai déjà cité ce texte il y a bien des mois, mais je vais le relire parce que j'aime beaucoup. Pour sortir un petit peu du Nouveau Testament mais rester dans l'Antiquité, c'est Tertullien, qui a vécu au deuxième siècle, maghrébin, donc de Tunis, on l'appelait Carthage à l'époque, formation avocat. Quand il écrit, il y va. Il plaide la cause. Et voilà comment il écrit la vie ensemble des chrétiens. Il y a une petite phrase au milieu où, quand j'arriverai, je ne pourrai pas faire autrement que de sourire, parce que chaque fois que je lis ce bout de phrase, ça me fait sourire. Mais bon. Voilà. Donc, il parle des chrétiens. Il dit, chacun verse une contribution modique à un jour fixé par moi. Ou quand il le veut bien, et s'il le peut, quand personne n'est forcé, on verse librement son offrande. On puise dans ses offrandes pour nourrir et inhumer les pauvres. pour secourir les garçons et les filles sans ressources ni parents, pour les serviteurs devenus vieux, pour les naufragés, et aussi les chrétiens qui souffrent dans les mines, dans les îles et dans les prisons uniquement pour la cause de notre Dieu. Cette pratique de la charité, aux yeux de beaucoup, nous imprime une marque infamante. « Voyez, disent-ils, comme ils s'aiment les uns les autres !» Parce que eux, ils se détestent les uns les autres. « Voyez, disent-ils, comme ils sont prêts à mourir les uns pour les autres !» Car eux sont plutôt prêts à se tuer les uns les autres. Ainsi donc, étroitement unis par l'esprit et par l'âme, nous n'hésitons pas à partager nos biens avec les autres. Tout sert à l'usage commun parmi nous, excepté nos épouses. C'est la même phrase où je ne peux pas m'empêcher de rire à chaque fois. Donc, tout sert à l'usage commun parmi nous, excepté nos épouses. Notre repas même fait voir sa raison d'être par son nom. On l'appelle d'un nom qui signifie « amour » chez les Grecs, « agape ». Et quelles que soient les dépenses qui coûtent, c'est profit de faire des dépenses pour une raison de piété. En effet, c'est un moyen par lequel nous aidons les pauvres. Parce que devant Dieu, les humbles jouissent d'une considération plus grande. On ne se met à table qu'après avoir goûté auparavant une prière à Dieu. On mange autant que la faim l'exige. On boit autant que la sobriété le permet. On se rassasie comme des hommes qui se souviennent que, même la nuit, ils doivent adorer Dieu. J'aime beaucoup ce texte du deuxième siècle. Donc, on va vivre la relation avec Dieu, on va essayer de, toujours d'aller plus loin dans nos relations en tant que famille de Dieu. Et puis la troisième chose, donc de vivre cette joie. Une joie, c'est quoi? D'après le dictionnaire, une émotion profonde liée à la satisfaction d'un désir. Bon, c'est pas un secret que j'aime beaucoup Jean-Sébastien Bach, parce que je trouve que lui, il arrive dans toute sa musique à allier la joie, mais sans verser dans la légèreté. Il se souvient du monde dans lequel on est. Et je pensais d'ailleurs à cela cette semaine, en parlant de la joie, parce qu'il y a un morceau de musique, vous connaissez bien, Jésus que ma joie demeure. Et je me suis toujours posé la question, mais pourquoi en français on dit toujours Jésus que ma joie demeure? Parce qu'en allemand, le texte de cette musique, c'est Jésus, tu es la source de ma joie. Est-ce que c'est la laïcité qui a fait qu'en France, on a voulu enlever le côté Jésus? Je n'en sais rien. Parce que les mots en allemand de Bach, c'est Jésus, tu es la source de ma joie. Intéressant, hein? Vérifie, hein? Comme j'ai fait. Donc, la joie ne dépend donc pas des circonstances, mais dépend de cette relation avec Jésus. Et donc, c'est très simple. C'est la vie bonne, parce qu'on a la relation avec Jésus, qui nous aide à avoir une relation avec les autres. Et à ce moment-là, on peut le vivre à la lumière même de la vie éternelle, parce qu'on sait qu'on ne peut pas tout faire dans la vie. Peut-être je ne verrai jamais cette vallée en Chine dont Christophe a parlé. J'ai vu plein de choses dans ma vie. Non, on ne peut pas tout voir. On ne peut pas tout faire. On peut être insatisfait. Mais on sait que le meilleur est devant nous. On n'a pas besoin de vivre avec les regrets en tant que chrétien. Parce que cette vie bonne est aussi une vie éternelle. Donc voilà, dès le début, en 4 versets, c'est profond ce que j'en dis. La relation avec Dieu, la relation avec les frères et sœurs qui aboutit à une joie profonde. Et c'est ça la vie bonne. C'est ça la vie bonne. Prions. Seigneur, merci pour ce texte qui nous parle déjà. Merci parce que tu t'intéresses à tout ce que l'on fait et toute notre vie, on peut la vivre devant toi, avec les autres. Merci Seigneur, parce que nous ne vons pas à chercher quelle est la vie bonne, tu nous la révèles. Mais nous devons chercher à mettre en pratique et à vivre cette vie bonne que tu nous révèles. Nous voulons te remercier, notre Père, que tu as envoyé ton Fils pour être un sacrifice pour nos péchés, pour que nous puissions être réconciliés avec toi et les uns avec les autres et connaître cette joie. Nous voulons te dire qu'il y a des moments où nous ne sommes pas conscients de ta présence avec nous. Nous ne sommes pas toujours prêts à vivre avec des gens qui sont différents de nous. Et cette joie peut faire défaut. Mais au moins, nous avons la carte routière, en quelque sorte, devant nous. La feuille de marche qui nous permet de savoir comment y arriver. Et nous voulons te demander, Seigneur, de nous aider à vivre cette vie bonne devant toi, pour la gloire de ton nom. Amen.